J'espère que vous allez bien. Je vérifie au début, je vérifierai à la fin. J'ai pensé qu'avec l'expérience et l'âge, on stressait moins. C'est pas du tout le cas. Je sais pas pourquoi. Plus je vieillis, oui, je vieillis. Plus je dois faire ça, plus je stresse. Ça m'énerve. On sait qu'avec l'expérience, on pouvait arriver ici détendu, ce qui n'est pas du tout le cas. D'autant plus que le sujet il a été dit, les anciens, conseil pastoral, voilà, c'est en lien direct quand même avec un vécu d'église, avec des choix, ce qui rend la chose pour moi d'autant plus un peu stressante. Mais sans transition, voilà un peu ce que j'ai reçu pour que vous ayez une idée de la thématique. Voilà, est-ce tout le monde, si vous savez, c'est trop loin, il y a plein de places devant. Et la première question que ça m'a posée, parce que j'ai tout entendu, c'est marqué conseil pastoral, c'est marqué ancien, parce que marqué on a dit, et déjà là, je me suis dit, en fait, je dois parler sur quoi? Sur le conseil pastoral, sur l'ancien, les anciens, sur le pasteur, en fait, c'est quoi? Et déjà là, ça nous dit un peu quelques questions, ça nous dit déjà finalement quelques soucis d'identité, finalement, c'est qui? Ces anciens du conseil pastoral avec un pasteur. Est-ce qu'il y a une différence? Enfin voilà, voilà ma réponse. Voilà. C'est là où j'en étais, je me suis dit on verra bien ce que je vais dire. J'ai quand même posé une autre question. Vous voyez pas, c'est marqué « Et tout ça en 20 minutes ». Comme j'ai jamais eu de réponse, je me suis dit, tant mieux pour moi, tant pis pour vous. Ça va être super long si on doit parler de ça. Mais j'ai quand même, je suis d'une obéissance exemplaire, demandé à ma mère. On va quand même vivre un survol d'Éphésiens 4. Je me suis dit, on allait tout lire, tout regarder, pour essayer de se dépatouiller là-dedans. Et je me permettrai de temps en temps de quitter un peu le texte pour faire des remarques très personnelles sur la question du conseil des anciens pastoraux avec un pasteur. Parce que actuellement, et du coup ça m'habite quand même un peu, actuellement je travaille dans le cadre de la HET sur la question de l'identité pastorale. Finalement, c'est quoi un pasteur? Quelles sont les compétences dont on a besoin? Quelles compétences métiers? Est-ce que c'est une profession ou pas? Comment se construit cette identité? Quelle est l'importance de l'Église en lien avec cette identité? Alors je vous dirai quelques petits mots là-dessus. Alors je ne vais pas trop m'étaler, mais le fait déjà de dire un conseil pastoral avec des anciens et un pasteur à plein temps vous dit beaucoup sur l'identité. Vous dites beaucoup sur les compétences qui sont attendues. Vous dites beaucoup sur qui vous devez voter. Voter pour un pasteur, pour un conseil pastoral ou pour des anciens? Parce que dans la Bible, on ne dit pas la même chose sur chacun, donc il faudra choisir. Donc voilà, je vais attaquer. Première chose, Éphésiens 4 en image. Je me suis dit que c'était plus simple de lire tout le texte. Et voilà, pour moi, Éphésiens 4, c'est ça. Exactement. C'est une énorme fresque, très diverse, dont le thème principal, c'est l'unité. Mais comme ça. Est-ce que vous y voyez l'unité, là? Oui, si on regarde la totalité, c'est une fresque, mais là-dedans, il y a quantité de choses très diverses. Et là, vous avez tout Éphésiens 4. Et vous avez Éphésiens 4 non seulement dans, j'ai envie de dire, son message principal, diversité et unité, mais vous avez aussi la manière dont il est écrit, des phrases très claires et d'autres dont on ne comprendra, à mon avis, jamais vraiment le sens. Très divers aussi dans ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Donc des images très claires, d'autres plus obscures, mystérieuses, dont il faut approfondir, on n'arrivera pas à tout faire. Et puis, si on s'approche un peu, on se rend compte qu'il y a des détails qui sont très importants, et puis d'autres qui sont très différents. Enfin voilà, c'est tout ça, Éphésiens 4. Et puis j'ai choisi cette image parce qu'il y a une personne qui est devant. La question qu'on va devoir se poser tout du long, c'est est-ce qu'Éphésiens 4 s'adresse à toi, ou est-ce qu'il s'adresse à nous? C'est qui le destinataire? Donc quand il dit qu'il y a diversité et unité, c'est en toi, ou c'est nous en tant que communauté? Ou c'est nous en tant que conseil pastoral? Ou est-ce que, voilà, c'est qui les destinataires? Et là, il y a une personne, mais à mon avis, cette fresque avait été faite pour plein d'autres personnes. On va devoir se poser la question. Et puis, ce que j'aime dans cette image, enfin, pour moi, en tout cas, c'est que je n'arrive pas à la quitter comme avant. Elle me laisse quelque chose, elle me laisse une empreinte qui va m'habiter, qui va continuer à me faire réfléchir, et j'espère que Ephésiens 4 vous aidera aussi un tout petit peu à réfléchir, et vous quitterez ce culte, pas comme avant, non pas parce que vous êtes plus fatigué à la fin, mais parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous habite. Alors, on va voir, est-ce qu'on aborde ce texte en tant que personne, chacun pour vous, certainement, ou est-ce qu'on l'aborde en tant que communauté, nous ensemble, on va réfléchir. Je continue, Ephésiens en code couleur. Je me suis dit que c'était plus simple à l'aborder sans ce sens. Vous allez voir, chaque fois que je vais faire apparaître le texte, il aura une couleur, ce qui dit que je lui donne un sens. Et c'est ça le code couleur que j'ai mis. En haut, c'est marrant, c'est pas la même couleur que sur ma feuille. C'est cette couleur. En théorie, c'est rouge. C'est le problème féminin-masculin. Vous savez que violet pour un homme ou pour une femme, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas qui voilà. Donc en haut, c'est rouge. Le savoir-être et la vocation. Voilà. En dessous, c'est bleu. Oui, oui, sur ma feuille. C'est le rôle et but. Ensuite, c'est vert, les fondements théologiques. Et ensuite, c'est jaune, conséquences et mise en route. On va avoir une mise en route. Donc voilà un peu. Je vais aborder. Alors, c'est clair que ça va être orienté à ma lecture, puisque je mets des couleurs. Obligé de le voir sous sens, mais je commence. Est-ce que vous voyez la couleur? Rouge, c'est quoi le rouge? Vocation et appel. Je vais lire, je vous encourage, donc moi, dit Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité, en vous efforçant, il y a la force, de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. C'est l'appel de qui? Qui c'est qui a appelé là? Jésus? Jésus seul peut-être. Il s'adresse à une communauté. Éphésiens n'est pas le nom d'une personne. C'est le nom de Jean qui habite Éphèse et qui allait dans une communauté. Être digne de l'appel de la communauté. C'est intéressant. On met souvent l'accent sur l'appel personnel. Est-ce que j'ai un appel? Quelle est ma vocation à moi, individuellement, personnellement? Mais est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui, quel est l'appel et la vocation de la communauté de Cossonay, ici, en tant que communauté? Alors il est évident qu'on ne peut pas lire comme ça aussi. Et puisqu'on va parler du conseil d'anciens, au conseil pastoral, la question qu'on se pose, c'est qu'à mon avis, une communauté, elle a un appel qui vient de Dieu, quel est-il? Alors je ne suis pas en train de dire qu'on ne le connaît pas, je pose la question. Puis à l'intérieur de cette communauté, il y a des appels sur des dicastères. Et le conseil pastoral, il a un appel aussi. C'est lequel? Il a peut-être vécu un appel jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi l'appel de la suite? Où est-ce que Dieu appelle ce conseil pastoral pour la suite? Et ensuite, il y a des appels individuels. Finalement, quel est mon appel là-dedans? Alors, ça paraît un peu bateau ce que je dis là. Mais finalement, la question qu'on va devoir se poser, c'est comment on tient l'unité dans l'appel de tous ces appels. Comment l'appel de la communauté, le Cossonay, peut rejoindre ou être en lien avec un appel d'un conseil pastoral et un appel individuel. Et finalement, quand on va voter pour quelqu'un, on va être obligé de se poser la question, comment peut-il être digne de son appel, cette personne? Ce qui signifie quand même que je connais un tout petit peu la personne, ce qui signifie que je connais un tout petit peu l'appel qu'elle a sur elle, et je me dis oui, ça je le perçois vraiment comme pouvant être un appel qui va dans un conseil pastoral, qui a aussi un appel, qui va dans une église, qui a aussi un appel. Et tout ça est lié dans le lien de l'unité de la paix, et ils vont s'efforcer de se supporter. Ça c'est la partie la plus simple. Ça paraît un peu conceptuel ce que je dis là, mais je lis quand même ce début d'Éphésiens 4 en nous demandant d'être dignes de notre appel. Et moi, automatiquement, je me dis, c'est lequel ? Et qui a reçu cet appel ? Alors voilà. Si je dis cela, c'est aussi, je vous donne une petite chose pour illustrer dans un cours, j'ai fait un travail avec des étudiants, c'était le cours de gestion de projet. Donc on a fait avec des outils de gestion de projet, les choses classiques, une structure, des diagrammes, enfin plein de choses classiques. Et à un moment, on a dû se poser la question, comment Dieu agit dans cette structure ? Finalement, la question qui va se poser dans une gestion de projet, c'est qui décide ? Et qui décide qu'à un moment, Dieu veut quelque chose ? Comment ça se passe dans cette structure ? Et bien finalement, quand on va voter pour les anciens, on répond en partie à cette question. Éphésiens nous dit d'être digne de cet appel, et bien par le système de vote qu'on met en place dans cette association où on va voter pour des gens, qu'ils soient proposés, pas proposés, je n'ai pas encore tout lu, tout entendu. Et bien finalement, on est en train de dire, voilà, Dieu finalement nous utilise pour dire un moment comment ça va se passer. C'est au travers de la structure aussi que Dieu parle, que Dieu pose des vocations, que Dieu dit, vous pouvez être digne de l'appel. Et du coup, voter, ce n'est pas simplement un acte, se dire, ah oui, il est sympa, je le verrai bien. Il y a un acte assez profond de rendre digne de l'appel que Dieu nous appelle, qui nous donne. Ça va toujours ?
Oui.
Je continue. Paul, fondement théologique, boum. Vous verrez, il est léger. Si un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, pour tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait don aux humains, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. Là, on est peut-être dans une partie de la fresque un peu plus obscure, plus difficile à saisir. Mais ce que j'aime quand même avec Paul, c'est qu'il fonde tout ce qu'il dit par le Christ, par Jésus-Christ. Finalement, tout est un uniquement par lui. Et ça, ça nous déculpabilise de tout ce que j'ai dit avant, en disant, mince, on est en train de se dire, je dois faire un choix, c'est super compliqué, comme il a amené ça. Oui, mais celui qui unit vraiment, c'est pas nous, c'est pas nos choix, c'est le Christ lui-même. Un seul esprit, un seul Dieu, un seul baptême. C'est lui qui va faire que ça se passe bien. C'est lui qui donne son esprit pour que ça soit possible. C'est pas nous, par le choix. Et puis, on est obligé de se dire que d'être digne de l'appel, c'est se rappeler que Christ, il a été jusqu'au bout pour ça. Parce qu'il a été appelé à aller jusqu'au bout. Il a été martyr, il a été glorifié. Il a fait énormément pour qu'on soit digne de l'appel. Qu'est-ce que ça nous dit encore ? Ben, ça nous dit que notre appel, ce n'est pas nos dada, ce n'est pas nos envies. Alors oui, on sait bien si c'est nos envies, mais ce n'est pas que ça. C'est d'abord le Christ. C'est fondé sur une personne et une relation avec une personne. C'est là qu'est l'appel de Dieu. C'est là que se fonde notre identité. Relation avec le Christ. C'est l'unique raison. Alors un peu obscur, oui, parce qu'à mon avis, il ne faut pas loin d'une vie et même plus pour saisir toute la profondeur de ce que Paul est en train de dire, tout ce mystère de l'unité en Christ, tout ce mystère de l'appel fondé sur sa personne et sur sa relation, parce que naturellement, ce n'est pas le chemin que nous prenons. Et ça, c'est la vie nature hein, qui prend un peu le dessus. Et ça demande, et on l'a chanté comme dernier chant, je suis très content, un petit abandon personnel. Je m'abandonne, vraiment. C'est vivre cela, Christ, et uniquement lui. Bleu, vous vous souvenez ? Si vous êtes comme moi, non, je suis obligé d'aller voir. Alors les buts, le rôle, c'est lui qui a donné, du coup, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui donne. nous pouvons discerner et dire, je pense que c'est ça, c'est très différent. Dieu donne, nous on discerne et on pose un regard qui dit, moi je vois cette personne dans un conseil pastoral. Mais celui qui donne, c'est le Christ. Pourquoi ? Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. J'ai failli mettre pour la construction du sang de vie. Non, pour la construction du corps du Christ, plus important, excusez-moi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Il y a du boulot. Ainsi, nous ne serons plus tous des petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. J'adore ces phrases. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est la tête. À nouveau, j'aurais presque dû le mettre en vert, le Christ. C'est ce Dieu martyr et glorifié qui a subi son appel qui donne les dons, les dicastères, les ministères. C'est lui, et dans un but précis. Pour les Éphésiens, il y avait besoin de ces apôtres, de ces prophètes, hein, apôtres, prophètes, certains pour l'unité, certains pour qu'ils ne soient pas ballottés, hein, afin d'être unis et pas ballottés. Besoin de la parole, fondement théologique, besoin de l'unité, un berger, un apôtre peut-être qui réunit, qui essaye de mettre ensemble. Voilà. De nouveau, il donne. On a les dons ici. Mais finalement, c'est quoi les buts précis de l'église de Cossonay et quels sont les ministères dont on a besoin pour atteindre ces buts? Finalement, c'est ce qu'il nous dit. Il y a un but, unité et pas ballotté. On a besoin de quoi? Ben, des apôtres, des prophètes, des annonciateurs. Et ils sont là, ils sont donnés. Il suffit de les révéler. Voilà, ça c'est quand vous votez. Voilà, ça c'est fait. Je fais une petite digression pour signaler, à mon avis, trois caractéristiques quand même que je perçois dans ces dons qui ont été donnés. Trois caractéristiques aussi peut-être qui me semblent assez nécessaires dans les situations que nous vivons. Je ne parle pas simplement de Cossonay, mais dans notre monde actuellement, ou compétences. Alors, petite digression pour vous dire que la première compétence qui me paraît fondamentale, et vous allez me dire c'est bateau, mais voilà, c'est une compétence d'être en relation, une capacité relationnelle. Relationnelle les uns avec les autres, de comprendre, d'écouter, mais aussi relationnelle avec Dieu. Si j'ose me permettre de dire, moi j'ai besoin de gens qui me font rêver dans leur relation avec Dieu, qui me fait dire, ah purée, moi c'est ça, j'ai envie d'aller là. Ou, ah il m'interroge dans sa manière, ça me permet de grandir. Capacité relationnelle les uns avec les autres, mais aussi capacité relationnelle avec Dieu. Quelque chose qui fait vibrer, qui nous emmène. Compétence aussi de connaissance théologique ou biblique. Ça me paraît important, non pas pour dire ça c'est la vérité et c'est comme ça, mais pour être capable de discerner dans cette église les multiples mouvements théologiques qui existent. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un seul. Alors on se retrouve autour du Christ, heureusement, mais il y a beaucoup de diversité théologique. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on les accompagne? Est-ce que finalement on pose des limites? Est-ce qu'à un moment on se dit, ben non, cette dimension théologique, ça ne se vit pas dans notre Église. Ce n'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est que nous on a fait un choix. C'est comme ça. Voilà. Et bien pour ça, il faut avoir la connaissance, il faut avoir le recul, il faut être capable de discerner, de le voir et de l'accompagner. Et puis la dernière compétence, je suis désolé pour notre famille, c'est un article qu'on a lu, mais il m'a tellement marqué que j'en parle tout le temps, être capable de se mouvoir dans un monde complexe. Penser complexe à la mode aujourd'hui, mais ça me paraît fondamental. Aujourd'hui, vous avez une quantité de pensées, de mouvements, de choses, des valeurs qui commencent à aller dans tous les sens. Moi, ça me paraît très positif parce qu'on doit se situer, mais il faut être capable de faire cela. Et non pas pour trancher, mais pour unir, pour unifier. Rappelez-vous, Éphésiens, le but, c'est l'unité et pas être ballotté. Et dans un monde complexe, on n'est pas tellement unité et on est très ballotté. Et ça, ça me paraît être un mouvement très important. Lier le monde, lier la radicalité biblique, lier les avis divers, c'est un art. C'est cette fresque. Tout ça, c'est divers, mais ça fait qu'un. Et il me semble que ça, c'est une compétence fondamentale. Je continue. encore. C'est lui, fondement théologique de nouveau. Hein. Il a donné, on était dans les buts. Là, on arrive dans le fondement théologique. C'est par lui que le corps tout entier, il y a 58 versets si jamais, hein, donc 16. Hein. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Il y a des livres qui ont été écrits que sur ce verset, tellement il est compliqué. Et finalement, c'est ce que je disais par rapport à pensée complexe. Mais c'est par le Christ, finalement, que tout ça se met ensemble. Ces choses si diverses, la jointure de l'esprit fait que ça s'articule. Hein? Ça se frotte pas, ça se tape pas, ça s'articule. De temps en temps, ça articule mal, ça fait mal, mais c'est pas grave, ça articule quand même. Et donc, la nécessité. Et tout ça, ben, finalement, c'est possible à nouveau que par le Christ. C'est lui qui met ça. Un conseil pastoral, à mon avis, eh ben, il fait quoi? Il essaye de faire articuler avec l'esprit. Il aide à vivre cela. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Si j'ai dit ces trois compétences, de nouveau, ne voyez pas ces compétences comme pour une personne, mais pour un groupe. Est-ce que finalement, dans le groupe du conseil pastoral, on a cela? Parce que si on attend tout le monde et tout, ben on vote pour personne. Excusez-moi, peut-être une, je nommerai pas, parce que sinon elle va pas être très humble, mais... mais en tout cas, voilà, voir comme un groupe, est-ce qu'on met divers ministères. Alors, texte charnière, central, à mon avis. Je vous rassure, on avance. Le jaune, voilà, on arrive dans l'action maintenant. On entre, hein, finalement, dans quelque chose de concret. Pour ceux qui aiment le concret, il y a du travail. Voici donc ce que je dis. Je veux dire, ben c'est le 17e verset qui commence à dire « voici donc ». C'est-à-dire, voilà, maintenant je commence à dire. Et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent dans la futilité de leur jugement. Ils ont de l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que le cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Et c'est... voilà, là on est dans l'appel, ce qu'on doit mettre en action. Alors c'est pas ça qu'on doit mettre en action, c'est finalement nous dire, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui a été amené va venir finalement rebouiller cette vieille nature qui est en nous. Naturellement, on va plutôt comme ça. Et ça va être un combat sans arrêt de se dire « Non, je ne veux pas vivre cela. Non, c'est dans un autre chemin que le Christ m'appelle. » Et ça, ben, c'est pas simple, ça doit se mûrir, on doit entrer en maturité. Alors, c'est pas un but. Le but, c'était avant. C'est une conséquence. C'est parce que je suis avec le Christ. C'est parce que j'ai une relation avec lui que ça, finalement, c'est normal que je vis. Ce n'est pas un objectif en disant « purée, c'est là-bas que je vais aller ». Alors, ce n'est pas simple, mais ça va être une conséquence. Et n'oublions pas que ceci est possible, parce que là, tout le monde est en train de se dire « c'est pas possible ». Ça veut dire « vous n'êtes pas tout seul ». Il s'adresse à une communauté. C'est ensemble que nous sommes appelés à vivre cela. Ce n'est pas moi tout seul dans mon coin. C'est prier qu'on est tout seul dans sa chambre. Vivre cela, c'est ensemble, en tant que communauté. Et tous ces appels, finalement, sont là pour être au service de mettre cela en action. On est vraiment avec Paul, encore un fondement théologique. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Retenez cette phrase magnifique. Il ne dit pas, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vivre. Il met directement un lien du vécu avec le Christ lui-même. Parce que nous, on aurait dit, c'est pas comme ça que tu as appris à vivre quand même. Non, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. C'est parce que tu connais Christ, c'est parce que tu sais qui il est, que finalement, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Apprendre comment Dieu veut qu'on vive, c'est bien, mais c'est très secondaire. Apprendre qui est le Christ, et ça change ma vie, ça, c'est fondamental. Et là, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins, c'est bien lui que vous avez entendu, connaissance biblique et théologique, si c'est en lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus. Encore un petit fondement, ce fondement théologique qui est important toujours pour Paul. Il faut connaître les gens, mais surtout, il faut connaître le Christ. Voilà, j'ai permis le centre de vie une fois. De nouveau, je suis désolé pour ceux qui sont loin, mais je vous lire à haute voix ce texte. Des conséquences encore, un vrai programme de vie, hein. Même pour moi, c'est plus petit. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dont la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres, communautaires. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas contre Dieu. Vous avez fait grâce dans le Christ. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Que le voleur ne vole plus. Qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais si l'on a besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. C'est super dur ça pour moi. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée au milieu de vous. Sacré programme. Je ne sais même pas si j'ai besoin de le commenter. À mon avis, ça c'est clair. La seule chose pourquoi j'ai mis centre de vie, si je peux me permettre, je reste dubitatif si un centre de vie n'est pas habité par tout ce jaune-là. Un bâtiment, c'est joli, mais à mon avis, la vie, elle est là, dans la manière dont on va vivre dans un centre de vie. Et finalement, c'est ça pour moi qui est important, de pouvoir vraiment mettre cela en place. Finalement, c'est quand nous, en tant que communauté, cette partie devient réalité et qu'on le vit à l'intérieur de quelque chose, c'est là qu'il y aura la vie. C'est pas au travers d'activités qu'on va faire. Alors, l'activité est bien, mais finalement, de nouveau, c'est très secondaire. C'est la manière dont on va habiter cela qui va faire qu'on va être vie vis-à-vis des autres. La conclusion, dernier verset, et je le commenterai même pas, je vous laisse la lire. Voter pour un conseil pastoral pour des anciens. C'est un groupe qui a reçu un appel. Et finalement, dans tout ce texte, on a des appels tantôt pour la communauté, tantôt des appels individuels, tantôt pour un groupe. Et nous, ben, quand on va dire pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre, finalement, on essaye de discerner les appels de Dieu sur ces diverses choses et on va essayer de les mettre ensemble. Voilà. Je vous remercie, c'est fini. Maintenant, il n'y a qu'à Foucon. Mais je crois qu'on a quand même sérieusement besoin de Dieu pour vivre cela qui est, à mon avis, un texte magnifique, mais